RCF. Bonsoir à toutes et à tous, 18h10 ce jeudi 18 janvier, on est très heureux de vous retrouver sur RCF France Ardennes, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne Ardennes en DAB+, pour vous accompagner. Vous avez peut-être entendu sa voix, elle nous a rejoint en début de semaine, notre stagiaire à la rédaction, Elsa Gillot est avec nous en studio. Bonsoir Elsa.
Bonsoir Alexis.
On vous retrouvera tout à l'heure, notamment pour les tendances météo. C'est vrai que ce matin il a fait froid entre neige et verglas, il a fallu être très prudent au moment d'emprunter sa voiture ou même de marcher dans les rues, que l'on soit en milieu rural ou que l'on soit dans les principales villes de notre territoire. Au programme ce soir, les perspectives économiques en France pour l'année 2024. Ce sont des questions que l'on va poser à Gérard-Marie-Henri. Marc Guéniaud, le maire de Bazeilles, sera avec nous pour nous présenter sa commune, vous en avez l'habitude. Et en deuxième partie d'émission, on ira faire plusieurs rencontres. On parlera notamment des portes ouvertes avec Jean-Philippe Baudin, qui est directeur saisi école d'ingénieurs. Les portes ouvertes, ce n'est pas ce week-end, mais le week-end prochain pour cette école. Nous serons également avec Yannick Cossier pour parler de la semaine de l'unité des chrétiens. Et puis enfin, les jeunes et la fête. C'est une chronique que nous proposera Suzanne Joss en 240 secondes. Voilà pour le sommaire de cette émission. Tout de suite, nous on commence par les questions d'économie avec Gérard-Marie-Henri en ligne avec nous au téléphone.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Alors pour tout dire à nos auditeurs, vous êtes revenu de Bretagne, mais vu les circonstances météo, on a préféré vous laisser bien au chaud à la maison devant la cheminée. C'est quand même plus agréable. Et puis surtout, on n'avait pas envie que vous cassiez une jambe, Gérard-Marie-Henri. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes avec nous par téléphone pour évoquer les perspectives économiques de 2024, notamment dans l'Hexagone, Gérard-Marie.
Oui, on va surtout parler de la France. On va parler de la France, bien sûr, qui dépend de l'environnement international, mais on va voir un peu les choses qui se passent, qui sont à la fois positives et puis un petit peu inquiétantes en même temps.
Alors lorsque l'on parle des perspectives économiques et certainement que l'on va évoquer aussi le moral des ménages, j'ai envie qu'on termine cette chronique par des notes positives, Gérard-Marie-Henri, pour qu'on
D'accord.
reste sur de bonnes nouvelles. Alors quels D'accord. sont d'abord les éléments qui font dire que les perspectives économiques de 2024 finalement ne vont pas être terribles ?
Alors le point qui fâche un peu, donc c'est le moral des ménages. Les ménages n'ont pas la forme, donc ça veut dire qu'ils vont pas trop dépenser. Et s'ils dépensent pas trop, bah, y a moins d'activité, moins de croissance, moins d'emplois. Donc ça, c'est le gros point noir. Et en fait, c'est un peu bizarre puisque ces ménages, ils sont pas si à plaindre que ça, quoi. Le taux d'inflation a baissé, les salaires ont quand même assez fortement augmenté. Il y a bien sûr les taux d'intérêt qui sont élevés, c'est-à-dire le jeune ménage qui veut emprunter, devenir propriétaire, bah, il voit que ça va lui coûter cher, donc il renonce un peu. Mais enfin, donc, on a des ménages qui ont plutôt le moral en bas, largement en dessous de la tendance habituelle. L'INSEE fait tous les mois une enquête, la moyenne donc elle prend c'est 100, et là on est un petit peu au-dessus de 80, donc on est vraiment bien en dessous de la tendance habituelle.
Gérard-Marie-Henri, ce moral des ménages, il se oui. mesure comment ? Quelles sont les questions que pose l'INSEE aux personnes qu'ils vont interroger ?
Alors on leur demande qu'est-ce que vous pensez de la situation de l'emploi, qu'est-ce que vous pensez des prix, est-ce que votre situation financière est meilleure qu'avant, moins bonne, etc. Donc on essaye de voir un peu comment ils ressentent l'environnement qui est autour d'eux. Quand ils vont faire des courses, quand ils payent leurs factures, etc. Et là, visiblement, bah, ils ont peur un peu de l'avenir. Ils épargnent, ils essayent d'épargner pour certains. Donc ils freinent leurs dépenses, ils regardent vraiment les prix. Ils n'ont pas fait beaucoup de dépenses pour Noël, etc. Moins que d'habitude, ce qui est quand même un petit peu embêtant.
Est-ce que dans la lignée de ce moral des ménages qui est impacté par les perspectives, est-ce qu'il y a d'autres choses qui font dire que l'année 2024 peut être compliquée économiquement parlant, Gérard-Marie-Henri ?
Alors là, le deuxième gros problème, c'est évidemment l'environnement international. L'environnement international, qu'est-ce qui va se passer dans la mer Rouge ? Est-ce que la circulation des produits pétroliers va continuer à se faire ou elle va être interrompue ? Donc on a un certain nombre de variables qui sont embêtantes. Que va-t-il se passer aux États-Unis à la fin de l'année, puisqu'il y a des élections et qu'on pourrait supposer maintenant que c'est Trump qui va gagner ? Ben, on sait qu'il va mettre des obstacles au commerce. Enfin, il y aura toute une série. Déjà, on a de ces phénomènes, hein, même si c'est pas encore le cas, on se protège Donc on va prendre des décisions qui ne sont pas favorables à la croissance, en disant on ne sait jamais, il pourrait faire ça, il pourrait mettre des barrières protectionnistes. Et donc on va avoir ce qui pèse sur l'environnement international, sur la croissance mondiale, donc des pays qui auraient plus de croissance, qui est bon pour nous, puisqu'ils nous achètent, là ils vont en avoir moins, donc il va y avoir des débouchés français à l'exportation qui vont se restreindre. Enfin, vous voyez à peu près le scénario, hein, tout se tient, on a intérêt à ce que les pays avec lesquels on fait du commerce aillent bien, même si c'est la Chine qui, encore environnement international, a une croissance qui a assez sensiblement baissé, ben c'est pas bon, puisque le marché chinois, pour nous, c'est un marché aussi important. Et donc, si les Chinois font un peu la tête comme les Français, les consommateurs chinois, ils ont aussi le moral à zéro, ben c'est pas bon pour les ventes de vins français, de champagne, de cognac, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, de foulard Hermès, etc. Donc l'environnement international risque de peser sur la France et sur les autres pays, bien sûr.
Gérard-Marie Henry, j'ai l'impression qu'on tombe dans des perspectives de morosité. Rassurez-nous, il y a quand même des bonnes nouvelles pour démarrer 2024 et pour vivre ces 12 mois avec quand même un petit peu de joie.
Oui, alors donc, la bonne nouvelle, enfin j'espère qu'elle va durer, c'est que les chefs d'entreprise, eux, bah, ils n'ont pas le moral dans les chaussettes. Ils ont un moral qui est à peu près à la tendance normale. Ça veut dire qu'ils vont sans doute continuer à embaucher, à investir. Ça se voit sur des phénomènes assez importants. Par exemple, le taux de chômage, pour l'instant, bon, il augmente, mais vraiment très faiblement. Alors que la croissance a bien ralenti, ben, le taux de chômage, il se dégrade pas. Ça veut dire que les chefs d'entreprise disent ben, « je vais quand même pas me séparer de ma main d'œuvre, je continue à faire ». Et donc ça, c'est un bon indicateur de rattrapage. Si ça continuait, si ce moral des entreprises était stable pendant l'année, ça compenserait un peu ce que j'ai raconté précédemment sur le moral des ménages et l'environnement international.
Alors effectivement, Gérard-Marie Henry, on peut voir cet impact sur le moral des ménages qui vient de l'activité économique, mais est-ce qu'aussi les ménages, un petit peu, j'allais dire, la classe moyenne qui voit les chefs d'entreprise qui ont le moral et qui se disent « on peut continuer à faire des affaires », ça ne les impacte pas négativement de se dire « finalement, c'est toujours les mêmes qui ont le moral, c'est toujours les mêmes qui vont gagner en 2024
». Ah oui, c'est un peu vrai, ça peut encore renforcer, bon, disons, les tendances à voir l'économie coupée en deux, avec d'un côté ceux qui s'en sortent, et puis moi, je suis du mauvais côté, donc oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu ça, mais le sentiment anti-chef d'entreprise, il est vraiment pas bon, quoi. C'est quand même les entreprises qui tirent l'économie, quoi. C'est pas le nouveau gouvernement qui crée les emplois, quoi. C'est pas l'État qui fait des choses, il redistribue, il fait des transferts, etc. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait des entreprises qui créent des choses, quoi. Et donc leur taper dessus ou être un peu jaloux, c'est pas une bonne solution. Mais elle est dans l'air, hein. Effectivement, on a toute une série de groupes politiques, etc., qui aimeraient bien taxer les patrons, continuer à poser des impôts supplémentaires, etc., etc. Mais ça, c'est la mauvaise, très mauvaise solution, quoi. C'est le populisme bête que j'espère n'arrivera pas au pouvoir vraiment en France.
Et est-ce qu'on a d'autres bonnes nouvelles tout de même pour 2024 pour essayer de compenser toutes ces nouvelles finalement un petit peu plus fâcheuses, on va dire, Gérard-Marie Henry?
Bah, la bonne nouvelle qu'on a mise un peu à l'écart pour l'instant, c'est quand même cette inflation qui, bon, elle n'est pas revenue au niveau normal des 2%, on est encore à 3 quelque chose, mais enfin, elle a quand même bien baissé, et ce qui signifie que la Banque Centrale Européenne devrait en tenir compte pour baisser ses taux, donc on verrait dans le courant de l'année des taux d'intérêt, quand on voit, on emprunté à la banque, le banquier dirait « ah ben non, c'est plus 5%, mais c'est seulement 3,5%. » Donc ça change beaucoup de choses quand on emprunte sur 15 ans, quoi. Et donc là, j'espère qu'on va avoir cette détente des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne en fonction de cette baisse de l'inflation qui, j'espère, va continuer. Alors avec toujours le problème international, le prix du pétrole, de l'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Mais pour l'instant, on est dans une tendance là qui est assez positive et les grandes banques centrales vont réduire leurs taux dans le courant de l'année, que ce soit la Banque Centrale Européenne ou la Réserve Fédérale Américaine. Enfin, on va dans cette tendance qui est positive et qui va soutenir la croissance.
Tout cela mis l'un dans l'autre, Gérard-Marie Henry, on devrait quand même arriver à quelque chose où on peut estimer passer une année 2024, peut-être ne pas dire bonne, mais en tout cas pas trop mauvaise pour tout le monde.
Pas trop mauvaise, mais avec quand même une croissance qui s'effrite. Hein. Je regarde les chiffres que j'ai. On devrait avoir pour le dernier trimestre de l'année 2023 une croissance à zéro. Et pour l'année qui vient, on devrait arriver peut-être péniblement à 0,4% de croissance. C'est-à-dire, bon, on la sent pas, quoi. Les choses restent identiques. Donc les gens vont avoir l'impression que c'est pas bon, quoi. Quand il y a une croissance aussi faible, et on prévoit 0,30 pour 2025, vous voyez, une tendance qui est quand même un peu désagréable, d'une croissance qui s'arrête ou qui fléchit. C'est pas la récession, hein, c'est pas ce qui s'est passé pendant le Covid, mais c'est quand même quelque chose qui va, encore une fois, aggraver la détresse, enfin, le moral des ménages qui est bas, et va encore sans doute reculer.
Et pour le moral des auditeurs de RCF en région, Gérard-Marie Henry, tout va bien puisque vous êtes là pour répondre à leurs inquiétudes et à leurs craintes concernant les questions d'économie. On vous dit à la semaine prochaine, Gérard-Marie.
À la semaine prochaine, Alexis. J'espère pouvoir venir dans le studio.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
La suite avant le journal de 18h30 sur RCF, c'est un maire qui nous parle. Ce jeudi à 18h21, c'est Marc Guéniaud, le maire de Bazeilles dans les Ardennes, qui s'entretient avec Jean-Pierre Benoît.
Marc Guéniaud, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que Bazeilles, on connaît bien sûr à côté de Sedan, dans les Ardennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la commune de Bazeilles? Combien d'habitants? Quel type de population? Des retraités? Des agriculteurs? Des gens qui vont travailler à Sedan? Une petite photographie, monsieur le maire.
La commune de Bazeilles est aujourd'hui ce qu'on appelle une commune nouvelle, puisque nous nous sommes mariés avec des communes qui sont en périphérie, avec Villers-Cernay, Rubécourt et Lamécourt, et depuis le 1er janvier 2024 avec La Moncelle. Aujourd'hui, on dénombre 2750 habitants. C'est une commune dynamique avec une belle zone industrielle, une belle zone commerciale, où la population est plutôt dans la tranche d'âge moyenne. Nous maintenons de la jeunesse sur la commune, puisque nous sommes en développement permanent de l'habitat et nous prévoyons encore un prochain lotissement.
Ça veut dire que peut-être aussi, je ne sais pas si c'est exact, hein, Marc Guéniaud, vous allez nous le dire, avec le Covid en particulier, il y a des gens qui aiment avoir un petit morceau de terre, un petit jardin, quelque chose qu'ils ne peuvent pas forcément avoir en ville, par exemple à Sedan ou à Charleville-Mézières, et ils viennent de... Est-ce que vous avez vu des personnes arriver comme ça?
Oui, alors on a ce phénomène que l'on a pu constater, mais on a aussi également un turnover, hein. On a aussi certaines personnes qui, prenant de l'âge, ont aussi des velléités de retourner en plein centre d'une commune un petit peu plus dense. Voilà. Mais en tout cas, on arrive à maintenir notre population au-delà de 2700 habitants.
Et vous êtes, Marc Guéniaud, maire délégué de Bazeilles déjà depuis quelque temps?
Oui, alors je suis élu sur la commune de Bazeilles depuis plus de 20 ans. J'ai été donc conseiller municipal, ensuite adjoint. Et depuis le dernier mandat des années 2020, je suis effectivement maire délégué de la commune de Bazeilles.
Alors c'est vrai qu'on dit aujourd'hui, il y a des gens qui refusent, qui ne veulent plus se remettre dans un nouveau mandat, parce que c'est vrai que, contrairement à ce qu'on peut penser de l'extérieur, et on s'en rend compte nous dans nos émissions, le travail de maire dans une commune, c'est pas aussi évident, c'est très prenant, il y a beaucoup de choses à faire, on ne se rend pas compte.
Oui, alors tout à fait, c'est un véritable métier aujourd'hui, hein. Les choses sont très complexes. Alors tout d'abord, lorsqu'on est élu et lorsqu'on est maire, je crois qu'il faut aimer les gens, hein. Ça, je crois que c'est la première chose qu'il faut avoir en soi, puisque nous sommes là pour aider, accompagner, renseigner. Nous sommes là pour impulser une politique qui va, bien évidemment, rejaillir sur la vie de nos administrés. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et ensuite, donc il faut donner beaucoup de temps. Il faut donner beaucoup de temps aussi pour toute la partie administrative, puisque les règlements, les directives, les lois à appliquer sont effectivement très nombreuses.
Mais plus la commune est importante, on le voit dans les grosses villes, mais dès qu'une commune prend un petit peu d'importance, c'est vrai qu'on peut encore bénéficier de secrétariat, d'une petite équipe enfin qui peut aider le maire. Sinon, dans les toutes petites communes, c'est vraiment impossible. Le maire doit tout faire.
Oui, alors effectivement, dans une commune comme Bazeilles, c'est aussi, j'allais dire, une tranche de population charnière pour justement les personnels de la mairie. Nous n'avons pas les moyens suffisants pour avoir une grosse structure qui nous coûterait des charges salariales extraordinaires. Mais nous avons tout de même besoin d'avoir des collaborateurs de qualité pour assurer tout de même le fonctionnement de la mairie et le bien-être de nos habitants.
Alors parmi les projets, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Est-ce qu'il y a des projets en cours qui sont en train de se réaliser ou qui viennent de se terminer? Ou avez-vous des projets à plus long terme, à moyen ou à long terme, Marguenio?
Oui, alors je crois que le projet qui nous tient à cœur depuis ce début d'année 2023 et qui va, je crois, s'inscrire dans le temps, et c'est un projet de création de maisons de santé. C'est un projet que nous avions dans notre profession de foi donc en mai 2020. Le projet de maison de santé qui voit le jour aujourd'hui, puisque nous avons identifié un bâtiment qui était une propriété de commune de Bazeilles. C'est la maison Soichet, rue de Flamanville. Et dans cette maison, nous prévoyons d'y faire cette maison de santé avec plusieurs cabinets mis à disposition de praticiens.
Ça veut dire, Marc Guignot, je vous interromps, mais c'est vrai que c'est un problème qui va être majeur et vous avez raison sans doute d'anticiper, c'est le manque de médecins généralistes, mais aussi peut-être de spécialistes ou d'infirmières ou kinés dans le monde rural et même dans le département des Ardennes en général.
C'est tout à fait vrai en ce qui concerne la médecine générale, au premier chef. Nous avions sur la commune de Bazeilles deux médecins généralistes, dont une a fait valoir ses droits à la retraite. Le deuxième, le docteur Fauchard, est toujours parmi nous, mais il ne consulte plus que 3 jours par semaine. Donc il nous fallait anticiper, bien évidemment, cette affaire. Et nous travaillons justement avec les praticiens locaux pour développer cette maison de santé.
Et le projet va prendre sans doute plusieurs années. Et quand vous dites praticiens locaux, c'est pas forcément des médecins de médecine générale. Ça peut être, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être des infirmiers, des kinés. Enfin, vous allez voir, enfin, quelque chose autour de la santé.
Oui, alors aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir annoncer que pour cette maison, tout d'abord, nous avons le permis de construire. On va pouvoir prévoir et lancer les appels d'offres. L'ouverture est prévue pour le premier trimestre 2025. Et en ce qui concerne les praticiens, eh bien, nous avons recruté un chargé de mission pendant 6 mois qui nous a permis de développer un certain nombre d'attractivités. Et nous avons aujourd'hui la joie de pouvoir avoir fait signer 4 praticiens, c'est-à-dire 2 médecins généralistes qui vont nous rejoindre. Donc un plus ancien et un plus jeune qui démarre. Et également, pour répondre à la question, 2 infirmières locales viendront occuper un des cabinets. Et puis, nous aurons également la joie d'accueillir une Bazeillaise également, qui a, elle, été diplômée en orthophonie.
On peut dire que ça va changer aussi la vie, en particulier des habitants de Bazeilles, parce qu'ils n'auront pas à courir partout. Et évidemment, est-ce qu'il y a une pharmacie à Bazeilles?
Ah, complètement.
Il y a une pharmacie, oui, donc il y a quand même, à Bazeilles, on trouve tout, on a quand même tout sous la main. On peut pas, on peut aller bien sûr à Sedan si on veut, peut-être une grande surface ou, mais enfin, on a quand même beaucoup de choses.
Ah oui. Alors nous avons effectivement une pharmacie, nous avons un masseur kinésithérapeute également, nous avons plusieurs infirmières. Et effectivement, la maison de santé va pouvoir venir compléter toute cette offre médicale et paramédicale. Nous avons également une maison de retraite, un EHPAD, sur la commune de Bazeilles, qui a également besoin d'avoir un médecin qui soit un peu le médecin référent de cette maison. Donc tout ça est en train de bien se mettre en place, les planètes sont en train de s'aligner, et je crois que dans le premier semestre 2025, eh bien, nous pourrons inaugurer cette maison de santé.
Merci en tout cas, Marc Guignot, d'avoir été avec nous. Vous êtes maire délégué de Bazeilles, dans le département des Ardennes, dans cette émission. Votre maire nous parle. Alors, il faut dire, Marc Guignot, bien que comme vous avez d'autres sujets, mais ce que je vous propose, c'est d'ici quelques semaines de revenir et de réaliser une autre émission pour voir un certain nombre de dossiers que nous n'avons pas ouverts avec vous aujourd'hui.
Eh bien, tout à fait. Je suis à votre disposition, Jean-Pierre. Merci beaucoup.
Merci, Marc Guignot, d'avoir été avec nous et à très, très bientôt sur RCF.
Merci, messieurs. Quand la pendule flirte avec 18h30, c'est l'heure du journal régional. Les titres de ce jeudi 18 janvier, l'année 2024 marque les 20 ans du recensement de la population réalisé par l'INSEE en étroite collaboration avec les communes. Elle concerne cette année près de 110 600 logements en Champagne-Ardenne et 392 communes. Zoom sur le Cabaret Vert avec son directeur général Julien Sauvage. L'édition 2024 de l'Éco-Festival de musique se dévoile progressivement.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Les matins se suivent et se ressemblent. Neige et verglas étaient au programme ce matin. Il a neigé jusqu'à 10 cm par endroit. La circulation a été très perturbée, en milieu rural évidemment, mais aussi dans les principales villes de notre territoire, comme à Charleville-Mézières ou à Reims. Les bus et tramways étaient à l'arrêt ce matin et même encore en début d'après-midi. Le service n'a repris qu'aux alentours de 15h. La vigilance sera de nouveau de mise ce vendredi, avec les températures froides et basses, surtout attendues tout au long de la nuit, il pourrait y avoir de belles plaques de gel de nouveau. Ce vendredi matin, on en parlera avec les tendances météo de notre stagiaire à la rédaction, Elsa Gillot, d'ici quelques minutes. Chaque année, une partie de la population française doit répondre à une série de questions posée par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Le recensement permet de mesurer la population, percevoir sa diversité et connaître ses évolutions, comme nous l'explique Nicolas Souêtre, responsable du recensement de la population à l'INSEE Grand Est.
On a donc, lors des élections municipales, donc la taille du conseil municipal et les modalités du scrutin ne sont pas les mêmes en fonction de la taille de la commune. Les résultats du recensement de la population servent également à définir des zonages. Ils sont également utilisés par rapport à des seuils pour les diverses réglementations et pour l'installation de services. Et donc, je disais notamment pour les pharmacies. Une commune ne peut pas accueillir une pharmacie si elle a moins de 2500 habitants.
Une commune sur 5 est concernée chaque année, ainsi que 8% des habitants des villes, avec une répartition des rôles entre l'INSEE et les mairies. Nicolas Souêtre.
La première chose à savoir, c'est que le recensement de la population, c'est sous la responsabilité de l'État. Donc on a une répartition des rôles entre l'INSEE et les communes. Notre rôle de notre côté, ça va être d'organiser et contrôler le recensement de la population. Et du côté des communes, elles vont avoir plutôt la partie terrain, c'est-à-dire c'est elles qui vont préparer la collecte et réaliser finalement la collecte sur le terrain.
Précision sur les communes concernées.
Alors ça va dépendre de la taille de la commune. Si on est dans une commune de moins de 10 000 habitants, donc si on réside dans une commune de moins de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les 5 ans. D'accord ? Donc on a 5 groupes de communes et chaque année on prend un groupe. Après on revient sur les premières communes. Et donc on va interroger l'ensemble de la population de la commune qui est concernée. Dans une commune de plus de 10 000 habitants, le recensement est complètement différent puisqu'il a lieu chaque année, mais seulement sur une population, sur un échantillon de 8%.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. La campagne 2024 commence ce jeudi et se poursuit jusqu'au 17 février pour les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 24 février pour les communes de plus de 10 000 habitants. C'est un travail considérable puisqu'environ 110 000 logements seront recensés dans 392 communes. Les habitants visés par la campagne vont recevoir un courrier dans leur boîte aux lettres qu'ils résident dans des logements ordinaires, des communautés ou même des habitations mobiles. Ils sont invités à répondre en priorité sur Internet via le site le-recensement-et-moi.fr. En Champagne-Ardenne, le taux de réponse des ménages en ligne était en 2023 de 64,6%. Sinon, un agent recenseur viendra récolter les informations dans un deuxième temps avant fin février. Attention, si un agent se présente, il doit vous montrer sa carte d'agent recenseur. Gare aux arnaques. L'Institut catholique de Paris, campus de Reims, propose un nouveau parcours culture et religion en 2024. À raison d'une conférence par mois, la première est organisée au moment où l'on se parle. Elle a commencé il y a tout juste 30 minutes. C'est l'archevêque de Reims et des Ardennes, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui tente de répondre à la question « En quoi les chrétiens ont-ils le devoir de se former ?» On vous tiendra évidemment informé du programme des prochaines conférences. Le Cabaret Vert 2024 se prépare maintenant. Après l'annonce des dates lors de la clôture de l'édition 2023, on savait déjà que la 18e édition serait du 15 au 18 août 2024 donc, avec un retour à 4 jours. On se demandait quels seraient les artistes à faire le show sur scène. Tous n'ont pas été révélés, mais des premiers noms ont été dévoilés. Julien Sauvage, le directeur général du Cabaret Vert, ressort quelques artistes pour RCF Reims-Ardennes.
Ouais, ben forcément, je pense plutôt les têtes d'affiche, hein, mais on a construit la journée, en tout cas les journées sous forme un peu thématique. une journée volontairement assez rock, avec notamment la présence, c'est très égoïste de ma part ou très personnel, c'est un artiste que je voulais accueillir depuis longtemps, les Queen of the Stone Age, qui avaient confirmé leur venue. Ça, le public n'a pas pu le savoir pour l'édition 2021 qui malheureusement a été annulée, avec notamment Kobe Lynn, Pete Gervais ou encore Macklemore. Une journée le vendredi avec SCH, chez surtout Nino, hein, qu'on ne présente plus au grand public. Un samedi qu'on a voulu plutôt assez festif. Je pense notamment à la présence des Justice ou des grosses lignes de basse de Double, pour ne citer que, avec la formation de Funky Family. Et puis un dimanche qui a un petit peu changé. On pense que le festival existe depuis 20 ans. Le public a forcément évolué. On a toujours dit qu'on voulait une journée avec un peu des enfants, des poussettes, etc. Et ben, aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt nous maintenant, notre âge, les quarantenaires, cinquantenaires, qui avons des enfants, qui avons des poussettes à la maison. Et donc, on s'est plutôt orienté sur une journée plutôt années 90, alors avec l'avenue de Corne qui sera date unique en France. Et puis, on a cherché quand même à avoir un petit côté toujours un peu populaire, avec Louis Tomlinson, l'un des deux leaders de One Direction, ou encore Chaka Khan, qu'on ne pouvait pas éviter avec la grande histoire que le groupe peut avoir avec le Cabaret Vert, ou que le Cabaret Vert avec le groupe. C'est selon comment on veut présenter les choses, mais je crois que c'est la 7e fois que notre association va programmer Chaka Khan, que ce soit au Cabaret Vert ou sur d'autres événements.
Une programmation qui globalement retrouve les racines rock'n'roll du festival, qui sera complétée dans les semaines à venir. Sans oublier que le Cabaret Vert, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi les arts, de la littérature, avec un des plus grands festivals de bande dessinée indépendant et les arts de la rue. La billetterie est ouverte sur le site cabaretvert.com. Sport, dans un match initialement prévu en octobre, mais finalement à rejouer, de la 4e journée de D1 Arkema, la première division de football féminin, puisque la rencontre, on le rappelle, avait été interrompue suite à des jets d'engins pyrotechniques venus de l'extérieur du stade. Les filles du stade de Reims se sont inclinées sur la pelouse du Paris Saint-Germain, 4-0 hier soir, un résultat qui n'empêche pas les Rémoises de se maintenir à la 5e place du classement. Concernant l'équipe masculine des Rouges et Blancs, en cette période de mercato, il pourrait y avoir du mouvement. Le milieu de terrain Azor Matuziwa est annoncé du côté de Rennes. Les deux clubs ont trouvé un accord. Il ne reste plus qu'au club breton à se mettre en accord, cette fois avec le joueur. Tout de suite, la météo, c'est avec notre stagiaire à la rédaction, Elsa Gillot. Bonsoir Elsa, rebonsoir même.
Bonsoir Alexis.
Alors quelles sont les tendances pour demain, vendredi, en Champagne-Ardenne?
Du côté de la Marne, les minimales seront à moins 3 degrés et les températures maximales de 2 degrés. Le temps sera relativement ensoleillé, mais attention brouillard dans la soirée, notamment à Châlons-en-Champagne. Dans les Ardennes, les minimales seront de moins 3 degrés et les maximales à 0 degrés. Dans l'après-midi, avec du soleil, mais cependant le brouillard sera au rendez-vous du côté de Sedan, de la Vigilance et de Guise. Chez les Hauts-Marnais, la température sera similaire avec des maximales allant à 1 degré et un temps ensoleillé en Haute-Marne sans aucune trace de brouillard. Tout comme chez nos auditeurs de l'Aube qui, eux, auront des températures maximales de 2 degrés et des minimales à moins 1 degré, cependant sous un temps ensoleillé. Demain, nous fêterons les Saint-Marius.
Eh bien, d'avance, une bonne fête à tous les Marius. Merci Elsa, on vous retrouve de nouveau demain, vendredi, pour de nouvelles tendances météo. Attention, si vous venez à prendre la route avec le gel attendu cette nuit et les restants de neige fondue, tout ça pourrait donner des routes très très verglaçantes. Et même si vous êtes piéton, soyez bien prudents. On en connaît plus d'un qui sont déjà tombés, malheureusement. On pense bien à eux. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Une voix que vous connaissez dans cette deuxième partie d'émission, désormais sur RCF, celle de Suzanne Joss, qui va prendre 240 secondes pour vous parler des jeunes et de leur façon de faire la fête.
Bonjour à tous, c'est Suzanne. Vous écoutez 240 secondes sur RCF. Je voulais souhaiter à tous nos auditeurs une excellente année. Merci d'écouter RCF. Que cette année 2024 soit synonyme de chance, d'amour et de réussite. J'espère que les fêtes se sont bien passées et que vous avez survécu au fameux repas de famille. En parlant de fêtes d'ailleurs, savez-vous que depuis quelques années, les manières de faire la fête ont évolué? Des sondages montrent que les jeunes font de moins en moins la fête. Et figurez-vous que depuis les années 70, la moitié des boîtes de nuit françaises ont fermé leurs portes. Vous allez voir que les manières de s'amuser ont complètement changé et que les jeunes préfèrent sortir différemment. J'ai 240 secondes pour vous expliquer tout ce phénomène, alors si vous êtes prêts, top chrono! On associe la jeunesse à la liberté, aux soirées, aux boîtes de nuit jusqu'à l'aube, à la découverte de l'alcool. Jeunesse semble rimer avec débauche et légèreté. Pourtant, depuis quelques années, la tendance s'inverse. Les jeunes sortent moins. La génération Z, c'est-à-dire ceux nés entre 1997 et 2010, est surnommée la génération indoor. Indoor pour intérieur. Cette expression signifie que les jeunes sont plus souvent chez eux. Ils restent à la maison et sont plus casaniers. Et figurez-vous que ce phénomène apparaît avant même la pandémie et en fait le Covid-19 n'a fait que l'amplifier. Les chercheurs expliquent cela par le fait que les jeunes ne souhaitent plus prendre de risques. Ils ont été hyper sensibilisés aux dangers des drogues, de l'alcool. Un chiffre intéressant, c'est que 26% des 16-25 ans ne boivent pas d'alcool, contre 15% seulement des plus de 55 ans. Il y a donc un vrai recul de la consommation d'alcool et la génération Z est celle qui boit le moins depuis des décennies. Une autre explication à ce phénomène, c'est la précarité étudiante. Alors que l'inflation continue d'augmenter, un sondage de l'association Linky paru en 2023 montre que 54% des étudiants interrogés sautent des repas pour des raisons financières. Il est donc difficile de sortir et d'acheter de l'alcool quand même acheter de quoi se nourrir est difficile. Les boîtes de nuit paraissent donc être des dépenses inutiles. Et le prix de l'alcool augmente lui aussi. Ça coûte cher de sortir, surtout quand on est étudiant. Les dépenses liées à l'alcool semblent superflues. Alors bien sûr, il y a quand même des concepts qui sont en plein essor. Les festivals, par exemple, sont très populaires et se remplissent chaque été. Ils paraissent d'ailleurs plus économiques. Et oui, en passant plusieurs jours dans un festival, on voit une multitude d'artistes différents et cela semble rentabiliser l'achat du billet. Les réseaux sociaux ont leur rôle aussi à jouer et ils sont un des facteurs du déclin des boîtes de nuit et des soirées. Un sondage de Google paru en 2023 sur le comportement de la génération Z et l'alcool montre que 49% des 11-26 ans sont soucieux de leur image en ligne quand ils sortent. Les jeunes veulent garder le contrôle de leur image. Ils ont peur que des vidéos compromettantes fuitent. Imaginez en même temps si votre patron ou vos professeurs tombent sur une vidéo de vous complètement éméchée. Ou si des photos qui pourraient compromettre au sérieux que vous arborez chaque jour en allant travailler sortent sur la toile. C'est de ça que les jeunes ont peur. C'est ça qu'ils redoutent. Les jeunes sont terrifiés des conséquences d'une mauvaise image, d'une image incontrôlée d'eux qui apparaîtrait sur Internet. C'est un problème que n'avaient pas nos parents, ni nos grands-parents, qui pouvaient boire, danser, chanter à tue-tête leur défaite sans se soucier des conséquences le lendemain. Les réseaux sociaux nous poussent au contrôle de nous, à la bonne tenue en société. On a moins envie de se lâcher par peur des conséquences. Les jeunes sont donc moins fêtards, ils privilégient les soirées à la maison ou l'ambiance des festivals. À voir si en 2024, la jeunesse retrouvera de l'intérêt pour les boîtes de nuit et les bars. En attendant, merci de m'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine sur RCF pour une nouvelle chronique.
Sans transition, ce jeudi démarre la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec comme thème cette année « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Luc chapitre 10 verset 27 au diocèse de Chalon. Trois rendez-vous seront proposés, une soirée de louanges le 19 janvier à Épernay, une fête de l'unité le 21 janvier à Lépine et une prière œcuménique à Cézanne. Pour nous parler de tout ce programme, Yannick Cossier, délégué diocésain à Chalon pour l'unité des chrétiens, est avec Christopher.
Bonjour Yannick Cossier.
Bonjour Christopher.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Yannick Cossier, qu'entend-on exactement dans les termes, dans ces propos, unité des chrétiens ?
Oui, alors tu as raison de poser la question parce que souvent on mélange unité des chrétiens, interreligieux, œcuménisme, les gens mélangent un petit peu oui. les mots. Alors unité des chrétiens, c'est totalement synonyme de œcuménisme, c'est-à-dire les relations, les partages, les dialogues entre des chrétiens qui confessent que donc Jésus-Christ est Seigneur, hein, qui croient à la Trinité, au Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors que le dialogue interreligieux, c'est toutes les religions du monde, donc les chrétiens dont je viens de parler, et aussi les musulmans, les juifs, alors que l'unité des chrétiens, donc ça rassemble pour le coup les catholiques, les protestants, oui, les évangéliques, voilà, les orthodoxes.
Alors quelle est l'importance de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens?
Alors c'est très important, depuis donc, les années 30, ça a surtout pris un grand essor après la dernière guerre mondiale, après 45-50. Donc c'est une semaine mondiale, c'est toujours du 18 au 25 janvier. Donc toutes les églises chrétiennes dans le monde entier sont vraiment invitées à prier pendant une semaine sur cette importance capitale, pouvoir se parler, prier ensemble. Ça permet de pas oublier la question, parce que c'est vrai que la tendance naturelle des humains, c'est de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent, hein, c'est naturel, voilà. Et donc au moins une semaine par an, on se dit, attention, voilà. Faut aussi regarder plus loin que son église, regarder un petit peu les voisins, voir ce qu'ils font, et c'est toujours très enrichissant. Mais c'est vraiment quelque chose d'important, oui, au niveau de l'église catholique, au niveau de l'église protestante, catholique, orthodoxe, oui, c'est très beau.
Avec un nouveau thème cette année, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, selon Luc au chapitre 10, au verset 27.
Alors le thème est choisi au niveau mondial par un pays, hein, qui change chaque année. Cette année, donc, c'est une équipe œcuménique du Burkina Faso qui a choisi ce thème. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est quand même hyper central, hein. Jésus-Christ nous l'a bien annoncé en disant que il y a les 10 commandements, ok, mais bon, là, il se récapitule, enfin, tout est dit dans ces deux principaux commandements. Et Saint Jean nous dit même que si on dit qu'on aime le bon Dieu, qu'on ne voit pas, mais qu'on n'aime pas notre prochain qu'on voit, on est des menteurs. Donc c'est relativement clair et fort comme message.
Et d'ailleurs, au diocèse de Chalon, cette semaine est préparée par une équipe œcuménique du Burkina Faso.
Tout à fait. Donc nous avons beaucoup de chance dans notre diocèse, c'est que nous avons beaucoup de personnes burkinabées qui travaille avec nous.
Motivé, déterminé.
Voilà. Et en plus, cette équipe est œcuménique. Donc, on a les gens de Chalon et de Dormans dans le diocèse, et même à Reims aussi, mais même si c'est pas le diocèse. Il y a des sœurs de Bobo Diolasso, hein, les SAB. Voilà. Donc, qui sont à Saint-Mémy, près de Chalon, à Dormans, à Reims, etc. Et donc, qui nous apporteront un petit témoignage. On a également le père Pascal Tindano, donc qui est chez nous, hein,
du côté de Cézanne.
Du côté de Cézanne. Et on a aussi du côté de Cézanne un pasteur qui, coup de chance, hasard avec un grand D, comme on dit, est également burkinabé, le pasteur Zabulon Tchirikere. Donc on aura des témoignages variés de prêtres, pasteurs, de sœurs, et puis il y aura aussi toute une communauté, je pense, de laïcs, je pense notamment à l'époux de Lucie Kiema, hein, qui est dans l'équipe, qui est burkinabé, hein, à Sainte-Menou. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de burkinabés dans le diocèse.
Il y a une belle équipe pour organiser cette fête de l'unité des chrétiens. Alors justement, parlons un petit peu de ce programme, Yannick Cossier, qui va s'organiser en trois temps du côté du diocèse, notamment la soirée pour l'unité des chrétiens à Épernay. On peut dire que c'est une soirée plutôt louange qu'on aura du côté d'Épernay le 19 janvier. La fête de l'unité à l'Épine, vous avez expliqué qu'il y aura ces fameux témoignages ce jour-là, le dimanche 21 janvier. Puis cette prière œcuménique à Cézanne le 23 janvier. Il y aura aussi d'ailleurs un temps de partage fraternel aussi du côté d'Épernay.
Oui. Alors cette année, l'accent est mis sur la convivialité. Voilà.
Pour trois rendez-vous.
Oui, parce que pour s'aimer et aimer son prochain, il faut se connaître, il faut se parler, et c'est important de prendre un café ensemble, un morceau de gâteau,
d'échanger,
se rencontrer, l'amitié, c'est essentiel.
Le moment convivial.
Dans le communisme, comme dans toutes les sciences humaines, voilà.
Donc ça, on le retrouvera donc à l'ensemble de ces rendez-vous. Alors on voit que sur la fête de l'unité à l'Épine, on a un programme assez riche, hein, durant cette journée du dimanche 21 janvier.
Oui, donc outre ces trois témoignages, on aura la chance d'avoir une louange de qualité avec les gens de Jeunesse en Mission, hein, donc cette école d'évangélisation internationale, hein, je rappelle, 20 000 missionnaires sur plus de 150 pays. Donc on a la chance que le siège social est à Le Gau-Soigny, Gau-la-Forêt, donc sur la route entre Épernay entre Cézanne et Montmirail, pardon. voilà.
Le donc, territoire c'est grand, Yannick.
C'est vrai, le diocèse est très très grand. Les Chalonnais vont pas toujours très souvent tout au sud. Voilà. Et donc c'est une grosse école, une grosse équipe. Ils ont vraiment des écoles de formation, d'évangélisation très importantes. Et donc on aura la chance d'avoir une bonne louange. On aura aussi la présence de Denis Véjus, notre administrateur diocésain depuis que Mgr Touvet est parti dans un autre diocèse, hein, à Fréjus-Toulon. Et donc Denis Véjus qui, heureux hasard une fois de plus, est curé à Cézanne, donc tout près aussi de Genèse en mission. Donc tous ces gens-là se connaissent bien. Et nous aurons également la présence du pasteur protestant Pascal Geoffroy, qui est basé sur Reims, mais dont la compétence recouvre tout le département de la Marne et des Ardennes d'ailleurs. Donc Pascal Geoffroy sera avec Denis Véjus. Et on aura certainement aussi Rudy Charpentier, le pasteur évangélique Vie Nouvelle d'Épernay, qui pour la première fois accueille la prière œcuménique, hein, cette prière œcuménique du vendredi 19 janvier à 19h. Donc se déroulera 4 avenue Beethoven à Épernay. Donc à Épernay, il y a une belle communauté évangélique. Ils se sont installés depuis 2-3 ans dans l'ancien relais paroissial du Mont Bernon. Hein, donc c'est Mgr Touvet qui a vendu cette église. Hein, voilà. Il y a aussi une belle petite communauté protestante et puis bien sûr une communauté catholique dynamique, voilà, autour du Père Grégoire, autour d'Odile Melin, de Sylvie Ferrand, etc. Donc des gens dynamiques, Nathalie Balug également, qui font beaucoup de bon travail localement.
Trois rendez-vous, on le rappelle, au diocèse de Chalon pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Tout d'abord, cette soirée pour l'unité, soirée de louange, on peut dire, notamment le vendredi 19 janvier, 19h, à l'église évangélique Vie Nouvelle à Épernay. On retrouvera la fameuse fête de l'unité des chrétiens à l'Épine le dimanche 21 janvier de 15h à 17h. Un beau programme, le tout dans un temps convivial, agréable, à la salle Odette Prévost. Ce sera donc un après-midi centré sur le Burkina Faso, pays qui a préparé le thème de cette année. Et enfin, la prière œcuménique du côté de l'abri à Cézanne, à la salle du Bon Secours au presbytère, ce mardi 23 janvier à 20h. Merci beaucoup.
Avec plaisir, Christopher.
Délégué diocésain pour l'unité des chrétiens au diocèse de Chalon, à très bientôt sur RCF. Et puis très bonne semaine de prière pour l'unité des chrétiens, parce que je sais que c'est toujours une petite préparation malgré tout, avec une très belle équipe qui vous entoure. À très bientôt.
Merci, Christopher.
Merci Yannick Cossier et Christopher Fausten depuis Chalon en Champagne.
Le 18-19 sur RCF.
Une dizaine de minutes à passer ensemble avec un dernier invité ce jeudi soir, Jean-Philippe Baudin, directeur saisi, école d'ingénieurs. À quelques jours des journées portes ouvertes, il s'entretient avec Jean-Pierre Benoît.
Jean-Philippe Baudin, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors on vient de dire un sigle, CESI. Alors qu'est-ce que le CESI ? De quoi s'agit-il exactement ?
Alors CESI est une école d'ingénieurs, établissement d'enseignement supérieur privé, qui a été créé en 1958 et qui est présente aujourd'hui sur 25 campus en France et qui propose des formations sur différentes filières qui sont informatique numérique, BTP, RH management, QSE, développement durable et également industrie et innovation.
Alors il faut dire, Jean-Philippe Baudin, que CESI, école d'ingénieurs, fait des formations pour des écoles d'ingénieurs, mais il y a de nombreuses formations qui sont proposées.
Tout à fait, précisément sur le campus de Reims qui existe depuis 1991. On propose effectivement, comme tu l'as dit, un cursus ingénieur avec un cycle préparatoire de 2 ans et ensuite un cycle ingénieur de 3 ans en statut étudiant ou en apprentissage, en sciences du numérique. Mais on fait également beaucoup d'autres formations en alternance de niveau Bac plus 2, Bac plus 3 ou Bac plus 5 sur les filières que j'ai citées précédemment.
Donc une grande variété, donc pour celles et ceux qui nous écoutent, des parents, des grands-parents et pourquoi pas aussi bien sûr des jeunes. C'est le moment de savoir ce que vous proposez. C'est-à-dire, si je comprends bien, qu'il y a des débouchés, quand même des métiers auxquels vous préparez les jeunes. Et ça, c'est quand même très important, car il faut savoir où on va, si ça débouche.
Bien sûr, complètement. Et on a d'ailleurs des taux d'insertion professionnelle qui sont tout à fait excellents à saisie. Sans d'ailleurs ces taux d'insertion professionnelle satisfaisants, on ne pourrait pas continuer à diplômer puisque nous décernons de véritables diplômes à saisie qui sont validés soit par la CTI côté ingénieur, par la commission des titres d'ingénieur évidemment, ou des diplômes France Compétences RNCP sur la partie alternance.
Alors il y a du bac plus 2, il y a du bac plus 5, c'est-à-dire une variété quand même de profils. Et puis peut-être même qu'on peut passer de l'un à l'autre, les meilleurs de bac plus 2 peuvent peut-être dire je vais aller en bac plus 5, pourquoi pas ?
Bien sûr, on propose la continuité, la poursuite d'études sur toutes les filières que j'ai citées donc, précédemment. Donc notre offre s'adresse au post-bac, au post-bac plus 2, même s'il y en a de moins en moins aujourd'hui, des post-bac plus 3, et puis même des post-bac plus 5, puisqu'on est en capacité de faire des bac plus 6, des masters spécialisés qui sont eux validés par la conférence des grandes écoles.
Alors Jean-Philippe Baudin, il y a tout cela, mais il y a surtout un leitmotiv qui revient, c'est le lien avec le monde de l'entreprise. Il y a des formations en alternance, il y a de la théorie bien sûr parce qu'il en faut, mais il y a surtout cet aspect professionnel, lien avec les métiers, avec les entreprises, avec le monde économique local aussi, parce que c'est important. Il y a le CESI national et le CESI dans notre région, Champagne-Ardenne.
Ah bah complètement. Et nous, on a un lien très fort avec les entreprises ici locales, de par notre histoire, parce qu'on est là depuis plus de 30 ans sur le territoire. Et c'est inhérent à toute formation en alternance, puisque pour obtenir le diplôme, on doit valider évidemment une partie à l'école et puis aussi une partie en entreprise. Et d'ailleurs, précisément, sur nos formations en alternance, 75% du temps est en entreprise et 25% à l'école.
Et le taux d'insertion, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Jean-Philippe Baudin, est quand même assez fort. C'est-à-dire que souvent, on fait des formations, puis écoutez, on a passé du temps à se former, et puis on s'aperçoit qu'il faut refaire une autre formation ailleurs parce que ça n'a pas débouché, quoi.
Alors complètement, le taux d'insertion professionnelle est de 94% à 6 mois à l'issue de l'ensemble de nos formations à saisie. Donc c'est évidemment une fierté pour nous. Et en plus, nous, localement, on a, de par notre histoire, former des milliers de champardonnais aujourd'hui, qui sont aujourd'hui sur des postes à responsabilité dans les entreprises qui nous entourent. Et c'est d'ailleurs eux, souvent, qui sont les premiers maîtres d'apprentissage de nos alternants actuels et qui sont aussi, d'ailleurs, nos intervenants, pour certains, sur le campus aujourd'hui.
Comme on dit souvent dans certaines écoles ou les écoles de commerce ou autres, vous commencez à avoir ce qu'on dit des réseaux d'alumni, c'est-à-dire des anciens élèves qui, finalement, quand ils savent que c'est un jeune qui vient saisi, ils se rappellent de son parcours à lui et ils se disent peut-être que j'y connais la qualité, je vais l'embaucher, je vais lui dire en tout cas de venir en alternance.
Complètement, et c'est toujours un plaisir d'accueillir nos alumni, nos anciens diplômés sur le campus, qui connaissent la pédagogie active, qui est une des particularités de saisie, l'apprentissage par projet, où on ne va pas délivrer des cours magistraux, il en faut parfois un petit peu évidemment, mais on essaye de faire apprendre à nos jeunes, et à nos moins jeunes aussi, par l'expérimentation, par le projet, par la mise en situation des études de cas, des jeux d'entreprise. Et c'est une pédagogie qui satisfait pleinement nos apprenants.
Est-ce que ça veut dire que parmi les intervenants, il y a peut-être des intervenants, j'allais dire, classiques, de matière classique, je pense aux mathématiques, à la physique ou peut-être autre chose, mais il y a aussi beaucoup d'intervenants du monde de l'entreprise, du monde professionnel?
Ah, complètement, et c'est d'ailleurs aussi une des figures imposées dans le cadre des certifications professionnelles qu'on délivre, avec des règles différentes en fonction du programme en question. Ce n'est pas la même chose sur la partie ingénieur que sur la partie bachelor de spécialité, master professionnel. Les formations au niveau Bac plus 2, 3 ou 5, mais on a évidemment des intervenants externes du monde de l'entreprise eux-mêmes qui sont des professionnels d'entreprise qui viennent délivrer leur savoir auprès de nos cohortes au sein du campus.
Alors comment candidater à CESI, école d'ingénieurs, de façon globale? Comment fait-on? On est intéressé, on entend ce que vous dites aujourd'hui, Jean-Philippe Baudin, et on se dit je vais y aller, comment on fait?
Alors, pour toutes les formations qui sont proposées après le bac, tout cela se passe par la plateforme aujourd'hui qui est bien connue, qui s'appelle Parcoursup. On peut retrouver l'ensemble de notre offre post-bac sur cette plateforme-là. Sur les autres formations, donc après un bac plus 2, 3 ou 5, il suffit de se rendre sur le site saisireims.fr et il y a un petit formulaire à compléter. Ensuite, nos équipes reviennent vers vous pour vous accompagner, vous renseigner.
Et puis, on s'aperçoit que les ingénieurs que vous formez, ils ont été accompagnés parce que vous dites une pédagogie un petit peu différente, c'est-à-dire que on apprend à partir d'une réalité, on ne complexifie pas des choses qui ne méritent pas de l'être. Ça ne veut pas dire que la qualité de ceux qui sortent n'est pas du tout entamée. Ce sont des gens de qualité.
Ah bah complètement. Lorsqu'on voit les parcours de certains de nos anciens, on peut constater qu'ils sont parfaitement adaptés au monde du travail d'aujourd'hui et de demain. On a par exemple, j'ai un exemple très récent, il ne m'en voudra pas si je le cite, Cédric Navet, un exemple qui me vient à l'esprit, qui est sorti de notre cursus ingénieur en informatique en 2022 et qui a reçu le prix Pépite Champagne-Ardenne qui récompense les étudiants entrepreneurs créateurs d'entreprises innovantes. Il a reçu ce prix-là, il a créé une société qui s'appelle Augmentis aujourd'hui, qui fonctionne très bien. Et puis on en a plein d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, qui ont évidemment eu de très belles carrières, qui occupent des postes à responsabilité en France, au niveau local évidemment, mais aussi à l'international, proche de nous, au Luxembourg, en Suisse ou aux États-Unis ou même un petit peu plus loin dans le monde.
Ça, c'est intéressant et c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent, bien, j'aimerais bien participer à des événements. Est-ce que dans les jours prochains, Jean-Philippe Baudin, il y a des rendez-vous que vous donnez à ceux qui s'intéressent aux CESI?
Alors, complètement, j'invite toutes celles et ceux qui pourraient être intéressés à notre prochaine journée portes ouvertes qui va se dérouler le 27 janvier prochain sur notre campus. On se trouve sur le bâtiment Polydrome. C'est de 9h à 16h, donc 7 bis rue Robert Schumann à Reims. Vous pourrez rencontrer nos équipes pédagogiques, creuser et découvrir les formations que l'on peut proposer. Et puis en parallèle, aller sur le site internet du CESI, hein, cesireims.fr. On nous trouve très facilement sur Google. On propose très régulièrement des stages découvertes, des journées d'immersion, des demi-journées pour découvrir aussi son futur métier, pour se renseigner et être sûr de s'engager dans la filière qui correspond à ses attentes.
Merci à tous les deux, messieurs, et c'est sur ce rendez-vous que se referme le 18-19 en Champagne. On se retrouve demain, vendredi, 18h10, pour de nouvelles actualités, à partir de 7h du matin sur RCF Reims-Ardennes. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, sera notre invité dans Parole d'évêque. Vous aurez aussi la possibilité de l'entendre demain soir dans le magazine régional, où vous retrouverez Elsa, qui est à mes côtés, notamment pour les tendances météo. Une très bonne soirée, Elsa, soyez prudente, et puis on se dit à demain.
À demain.
Dans quelques instants, l'information nationale. Très bonne soirée. En compagnie de RCF.